Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Des Palestiniens dénoncent une punition collective après la mort d'une jeune soldate israélienne. Ils ont mené ce mercredi un mouvement de grève à Jérusalem-Est. Le gouvernement français prévoit de diminuer de 7000 le nombre de places d'hébergement d'urgence, un choix qualifié d'insensé par le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Pascal Brice sera l'un de nos invités. Il reviendra aussi sur la situation des enfants sans abri en France. La fin du mandat du président libanais Michel Aoun le 31 octobre. Une nouvelle session parlementaire pour tenter d'élire un président aura lieu ce jeudi. Le Parti socialiste et les autres partis de gauche appellent à une marche contre la vie chère et l'inaction climatique dimanche prochain. Nous y reviendrons avec Brice Gaillard, premier secrétaire fédéral du PS dans les Hauts-de-Seine. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. La pénurie de carburant en France, la grève est reconduite sur de nombreux sites. Le gouvernement entend réquisitionner des personnels indispensables au fonctionnement de la raffinerie de Seine-Maritime. Pénurie de carburant également en Tunisie. De nombreuses stations-service ont commencé à manquer d'essence le week-end dernier à cause de la baisse des importations et de l'approvisionnement national. Des Palestiniens ont entamé ce mercredi une grève à Jérusalem-Est, un mouvement pour protester contre une opération lancée par les forces de sécurité israéliennes après la mort d'une femme soldat dans une attaque. Elle a été tuée samedi soir au checkpoint de Shuafat, un camp de réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est. L'armée et la police israélienne recherchent l'auteur du meurtre en encerclant notamment le camp de Shuafat. Les commerces sont restés fermés dans la vieille ville de Jérusalem et dans la principale rue commerçante de Jérusalem-Est. Palestiniens occupés et annexés par Israël. Des discussions interpalestiniennes à Alger, des pourparlers entre 14 différentes factions et partis palestiniens. Le 15 septembre dernier, le chef de la diplomatie algérienne avait fait état des efforts d'Alger pour consolider les rangs palestiniens à la faveur de cette réunion. Le projet de budget prévoit de diminuer de 7000 le nombre de places d'hébergement d'urgence en France en 2023, autant qu'en 2022. Un choix vivement dénoncé par le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, qui a tiré la sonnette d'alarme le mois dernier sur le nombre important d'enfants qui vivent dans des hébergements d'urgence, des abris de fortune ou dans la rue. Aujourd'hui, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité regrette de ne pas avoir été écouté. Rien n'a été fait depuis cette alerte, nous dit Pascal Brice. Entretien avec le président de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Nous sommes dans une situation, il y a toujours plus d'un millier d'enfants dans les rues de ce pays. Et depuis l'alerte à laquelle nous avons procédé avec l'UNICEF à la rentrée, début septembre, je vois bien qu'il y a une oreille attentive de la part des ministres, mais rien n'est fait. Donc on est toujours dans la même situation, donc nous continuons à alerter. Et ce d'autant plus que vous savez sans doute que s'ouvre la discussion du budget de l'État pour 2023, où le gouvernement pour l'instant prévoit de réduire le nombre des places d'hébergement d'urgence. Donc c'est évidemment pour nous insensé, et donc nous souhaitons que la discussion parlementaire puisse faire en sorte que les moyens soient là, notamment pour évidemment et d'abord pour accueillir ces enfants.
Lorsque vous dites que certains ministres sont attentifs à cette situation, cela se traduit comment ?
Écoutez, par une écoute, c'est-à-dire que lorsque nous en discutons avec le ministre des Solidarités, avec le ministre du Logement, il y a évidemment une écoute sur ces situations-là, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse.
Cela concerne combien d'enfants aujourd'hui qui vivent dans des hébergements d'urgence, des abris de fortune ou dans la rue ?
Dans la rue ou dans des campements, plus de 1000 enfants près de 30 000 si on prend en compte les hôtels, qui sont ces hôtels de fortune, comme vous le savez, où les familles sont parfois hébergées dans l'urgence et qui sont vraiment des pis-aller, et notamment du point de vue de l'accompagnement social et tout particulièrement pour les enfants.
Ces enfants sont-ils scolarisés pour la plupart d'entre eux ?
Beaucoup le sont, mais nous devinons que d'autres ne le sont pas. Et donc c'est évidemment une extrême difficulté. Et pour celles et ceux de ces enfants qui sont scolarisés, vous imaginez bien combien il y a là une difficulté immense pour ces jeunes à suivre une scolarité, alors que avant et après les cours, on est dans la rue ou dans des campements avec ses parents.
Il y a également des mineurs isolés parmi ces jeunes personnes ?
Écoutez, oui, il y a des mineurs isolés, alors qui sont le plus souvent pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais il y a également effectivement des mineurs isolés parmi ces enfants et ces jeunes.
C'est une situation qui a un impact notamment sur la santé mentale des enfants, comme le souligne d'ailleurs la présidente de l'UNICEF France.
Naturellement, ce sont des enfants qui déjà sont confrontés à tout ce que la violence et les campements comportent quotidiennement. Ce sont des enfants qui sont déstabilisés, ce sont des enfants qui ont des situations de santé physiologique ou mentale très fragiles, qui encore une fois vont à l'école quand ils y vont, quand ils peuvent y aller, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc oui, ce sont des enfants très fragilisés au plan de la santé mentale. Et là, il y a évidemment aussi une action à mener.
Et lorsque l'on vous écoute, l'on comprend que cela concerne plusieurs ministères. Est-ce qu'il faudrait une forme de transversalité pour combattre cette situation ?
Oui, bien sûr, mais c'est potentiellement le cas. C'est déjà le cas pour beaucoup d'enfants dans ce pays qui sont pris en charge par nos associations avec des financements de l'État ou des collectivités locales. Mais là, nous avons vraiment besoin d'un sursaut. Je redis qu'au moment où le gouvernement s'apprête à réduire le nombre des places d'hébergement d'urgence dans le pays, il y a quelque chose qui suscite l'incompréhension. C'est évidemment l'inverse qu'il faut faire. Et donc, il y a cette mobilisation des uns et des autres pour sortir ces enfants de la rue.
Il y a combien aujourd'hui de places d'hébergement d'urgence en France ?
194 000. Nous avions atteint un pic historique en sortie de crise sanitaire du Covid avec 200 000 places. Nous nous étions réjouis, c'était en 2021, que le gouvernement cesse une politique qu'on qualifie souvent de gestion au thermomètre, c'est-à-dire on ouvre et puis on ferme et puis on ouvre lorsqu'il fait très froid ou très chaud. En 2021, le gouvernement, c'était un acquis du premier quinquennat de M. Macron, avait mis un terme à cette politique en maintenant 200 000 places. Et puis là, on recommence, comme avant, cette politique qui ne donne aucune prévisibilité à qui que ce soit, qui coûte en fait plus cher aux finances publiques, avec à nouveau une réduction prévue de 194 000 à peu près 185 000 places. Alors même, on se le redit, hein, il y a encore des gens à la rue, plusieurs milliers, notamment des enfants.
Comment pouvez-vous comprendre cette situation ?
Je n'ai pas à la comprendre, elle est incompréhensible. Donc il faut maintenant se donner les moyens. C'est compliqué, c'est difficile. Nos associations le savent, les bénévoles, les travailleurs sociaux, aller chercher ses familles, ses enfants, les prendre en charge, c'est compliqué. Mais que l'on fasse en sorte que pour le reste, tout soit facilité en termes de moyens et de capacité d'action.
Et estimez-vous que l'opinion est aujourd'hui suffisamment sensibilisée à ce qui se passe aujourd'hui en France ?
Je pense que vous y contribuez, que beaucoup y contribué et que cette réalité apparaît de plus en plus. Nous allons continuer à la faire apparaître au grand jour.
Et vous saluez le rôle de l'ensemble des associations, vous qui présidez la Fédération des acteurs de la solidarité.
Absolument. Très mobilisé partout dans le pays, à la fois des bénévoles, des intervenants sociaux. C'est évidemment pour nous une priorité.
Une personne qui est dans cette situation, un enfant ou un adulte, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller de faire ? Quels sont les différents leviers ?
C'est avec les familles que se fait le travail, hein, sauf lorsqu'il s'agit de mineurs isolés, où là il s'agit de mobiliser l'aide sociale à l'enfance. C'est à travers les familles que se fait l'accompagnement. D'abord évidemment la scolarisation, la prise en charge sur le plan de la santé, tout ce qui peut être fait lorsque c'est possible pour un hébergement dans des conditions dignes. Voilà, c'est l'ensemble des éléments qui sont mis en place, mais évidemment dans un travail avec les familles, hein, quand ce sont des enfants qui sont avec leur famille.
Et êtes-vous favorable à une régularisation également des personnes sans papier logées par le 115 ? C'est aussi un élément important.
Alors oui, ce que nous prenons, c'est de faire en sorte... Moi, vous savez, partout où je vais dans les associations adhérentes de la FAS, partout en France, je vois des personnes étrangères qui sont sans papier alors que soit elles travaillent, soit elles pourraient travailler aisément. Vous voyez, par exemple, là, les Jeux Olympiques en région parisienne, il y a des besoins d'emploi. Partout dans les entreprises, il y a des besoins d'emploi. Je vois sans arrêt des boulangers qui cherchent du monde dans la restauration. Et on a des gens qui pourraient travailler. Donc, celles-ci et ceux-là, après un examen individuel, oui, je pense qu'elles devraient pouvoir avoir accès à un droit au séjour. s'agit pas d'une régularisation massive et générale, mais il s'agit de faire en sorte que des personnes qui sont plongées dans la précarité parce que, en réalité, on leur dénie un droit au séjour et un droit au travail, qu'elles puissent travailler et ne plus avoir à être notamment dans nos structures.
Et vous souhaitez que ce sujet soit discuté dans le cadre de la future loi immigration annoncée récemment par Emmanuel Macron ?
Oui, je pense que c'est un élément prioritaire au vu de la situation des personnes qui est indigne, au vu des besoins dans les entreprises. Il me paraît évident que de manière encadrée, transparente, on puisse faire en sorte que toute une série de gens qui sont aujourd'hui dans la précarité puissent avoir un droit au séjour et travailler.
Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice. Le Parlement irakien tiendra ce jeudi une séance consacrée à l'élection du président de la République. Il s'agira d'une première étape indispensable pour former un nouveau gouvernement et mettre fin à l'impasse politique et la fin du mandat du président libanais, Michel Aoun, le 31 octobre. Les députés ont entamé le 29 septembre dernier le processus visant à élire son successeur. Aucun consensus n'a pour le moment vu le jour. Une nouvelle session parlementaire pour tenter d'élire un président aura lieu ce jeudi. La commissaire européenne à l'énergie plaide pour un partenariat stratégique à long terme avec l'Algérie, un vœu formulé depuis Alger. L'Algérie est un fournisseur de gaz important et fiable pour l'Europe, dit-elle. Il tentait de rejoindre l'Europe par la mer Méditerranée. 194 candidats à l'exil ont été arrêtés par la marine tunisienne le week-end dernier. Cela dans le cadre de 9 opérations différentes. Parmi ces personnes figuraient 118 Tunisiens et 76 personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Dimanche dernier, 8 corps avaient été repêchés au large de Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie. Des personnes qui avaient pris la mer le 21 septembre avec 9 autres passagers, dont 2 femmes et un bébé, dans une embarcation très vite signalé comme disparu. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Brice Gaillard, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans les Hauts-de-Seine. Dimanche prochain, le Parti Socialiste et les autres partis de gauche appellent à une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Brice Gaillard.
Ce sera l'un des temps forts. On a eu une séquence syndicale dans un premier temps. Là, on va avoir une séquence associant à la fois les syndicats, les associations de la société civile et les partis politiques pour envoyer un message clair et fort au gouvernement. La situation ne va pas, il faut une inflexion de la politique gouvernementale. On sent bien que le gouvernement ne le souhaite pas, mais c'est l'occasion aussi de lui montrer une mobilisation populaire du peuple de gauche et plus largement d'ailleurs des Françaises et des Français pour réorienter la politique qui est conduite.
C'est la raison pour laquelle cette manifestation a lieu un dimanche et non pas en semaine, comme pour les défilés des syndicats.
Tout à fait, puisque effectivement une manifestation le dimanche permet à l'ensemble de la population, en tout cas à le plus grand nombre de la population, puisqu'on sait très bien qu'on travaille moins le dimanche qu'en semaine, d'y participer. Et voilà, nous on compte vraiment sur une mobilisation citoyenne, pas seulement des militants associatifs, syndicaux et politiques, mais une mobilisation de l'ensemble de nos concitoyens qui contestent la politique d'austérité et la politique de classe, disons-le, conduite aujourd'hui par Emmanuel Macron.
Est-ce que cette marche sera totalement pacifique, puisque Olivier Faure a rappelé à l'ordre Jean-Luc Mélenchon, qui a comparé cette manifestation à la Révolution française. Il faut rappeler que c'est une marche à l'origine organisée par la France insoumise.
Alors c'est une marche qui est organisée dans le cadre de la NUPES, donc qui associe 6 partis politiques et vous l'avez vu, un nombre extrêmement conséquent d'associations et de syndicats. Je ne vais pas commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon qui sont regrettables, on peut tous s'accorder là-dessus. Moi je crois, en tant que responsable départemental du Parti Socialiste, qu'il nous faut aujourd'hui une forme de radicalité dans les propositions politiques que nous portons, mais que cette radicalité-là ne doit pas faire l'objet, je dirais, de méthodes d'action. Donc oui, la manifestation en ce qui nous concerne sera pleinement pacifique. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aura des débordements à cette occasion.
Alors la NUPES, c'est un accord électoral qui a permis finalement à la gauche d'avoir un score honorable aux élections législatives. Et cette marche, c'est la suite de la NUPES, c'est finalement la première fois que les partis politiques manifestent ensemble. C'est quand même un événement politique aussi à ce titre.
Alors tout à fait, à ce titre, bon ça faisait longtemps, enfin, les partis politiques de gauche manifestent régulièrement ensemble, il faut quand même le rappeler, je pense notamment au 1er mai où tous les ans l'ensemble des partis politiques participent. Là où vous avez raison, c'est que c'est un événement politique de rentrée à la suite de cet accord électoral et j'insiste là-dessus politique, programmatique qu'a été la NUPES lors des élections législatives. Donc c'est l'une des suites. Je rappelle que ce n'est pas la seule. Nous avons aussi le combat pour la taxation des super-profits qui nous réunit beaucoup. Dans quelques jours, désormais, nous aurons la réponse du Conseil constitutionnel à cet égard. Mais oui, la NUPES a vocation à perdurer, a vocation à proposer des actions concertées entre les formations politiques de gauche. Et c'est très bien.
La NUPES existe au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les mois qui viennent, de tels accords aient lieu, par exemple, au sein du Conseil régional d'Île-de-France, au sein du département des Hauts-de-Seine, où vous êtes dans l'opposition? Est-ce qu'on peut imaginer ce type d'accord aussi au niveau local?
Alors, non seulement on peut l'imaginer, mais à titre personnel, moi j'y suis extrêmement favorable. Nous sommes dans un territoire particulier, les Hauts-de-Seine, où on le sait, le poids de la droite est extrêmement conséquent. Moi, je crois que pour porter des alternatives crédibles pour nos concitoyens, vers du mieux vivre, vers plus de solidarité, vers une transition environnementale réelle, il nous faut travailler dans le cadre de l'union de la gauche. Ça ne veut pas dire tout uniformisé. Nous avons chacune et chacun nos points forts et par ailleurs nos faiblesses, nos spécificités. Mais ce que l'on constate avec la NUPES, c'est que quand on travaille ensemble, les résultats électoraux suivent. Et moi, je veux m'arrêter sur les législatives et rappeler que sur les 13 circonscriptions des Hauts-de-Seine, nous avons été au second tour 12 fois. C'est la première fois depuis très longtemps que la gauche unie performe, si vous me passer l'expression, autant à l'occasion d'élections législatives. En tout cas, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Et en cela, c'est un signe d'espoir et nous devons continuer dans cette voie.
Brice Gaillard, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans les Hauts-de-Seine. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. La pénurie de carburant en France. Face à la reprise de la grève, le gouvernement a annoncé le lancement de la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt d'ExxonMobil à Port-Jérôme. La CGT va contester cette décision en justice, décision prise quelques heures après que les grévistes ont annoncé la poursuite du mouvement social. La Tunisie aussi est en proie à un manque de carburant, mais elle n'est pas liée à un mouvement de grève. De nombreuses stations-services ont commencé à manquer d'essence le week-end dernier à cause de la baisse des importations et de l'approvisionnement national. Le porte-parole du gouvernement tunisien affirme que la hausse de l'approvisionnement en carburant par les automobilistes a conduit au manque enregistré, puisque les stocks disponibles s'épuisent au bout de quelques heures. Il ajoute que l'État ne nie pas les difficultés d'approvisionnement. Fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.